Il y a tellement d'infos que je m'y perds.
Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même.
Souvent, je trouve que tout est trop superficiel.
Je pense qu'il y a trop d'infos et...
C'est très angoissant.
La première...
J'ai besoin de repères.
Les clés...
J'ai envie de comprendre.
Arnaud Reussen.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un nouvel épisode spécial jeune. Un épisode où l'on va parler de fast fashion et même d'ultra fast fashion. Le sujet a été remis au cœur de l'actualité avec l'ouverture récemment en France d'un magasin Shein, du nom de cette marque chinoise de vêtements qui coûte souvent quelques euros à peine. Alors comment est-ce possible d'avoir des vêtements à des prix pareils? Ce sont des élèves d'Ottigny-Louvain-la-Neuve qui nous ont demandé de creuser cette question. Alors on va le faire avec elles et avec eux pendant une petite demi-heure. Et c'est Sarah Pousset qui nous dresse d'abord le portrait de la classe qui nous avait rejoint à la RTBF.
La première... Les clés.
Alors, nous sommes élèves de 5e, 6e.
Tous en sciences humaines, donc on mélange les 5e et les 6e. Et on vient de l'implantation Lozel, qui dépend de l'Athénée Royal Paul Elvaux d'Ottigny.
Une quinzaine d'élèves d'Ottigny-Louvain-la-Neuve nous ont donc rejoints à la RTBF. Ils avaient entre 15 et 18 ans. Et c'est donc dans le cadre de leur option en sciences humaines qu'ils ont participé à cette émission.
L'option sciences humaines, c'est une option majoritairement d'histoire qui va traiter des sciences humaines, sociales, un peu économique. Et alors on va faire différents projets. Par exemple, depuis la rentrée, on a vu les Jeux Olympiques et la politique. Donc on essaie de les lier et on fait des projets. Par exemple, c'est de trouver un pays qui pourrait être éligible aux JO et on va débattre dessus.
On a du coup travaillé le sujet avant d'arriver ici pour quand même être tous aptes à répondre aux questions.
En classe, les élèves avaient donc déjà fait quelques recherches, trouvé des chiffres aussi pour quantifier l'impact environnemental de la mode. Et ils sont tous venus avec leurs tablettes et leurs notes prêts à les partager. Mais avant de se lancer dans la discussion, on a voulu savoir pourquoi ils ont voulu parler de fast fashion.
Pour sensibiliser au fait d'acheter trop et de surconsommer.
Informer les gens aussi en général, puisque les gens, des fois, ils sont pas assez informés à ce sujet-là. Ils sont pas au courant de ce qui se passe dans d'autres pays. Les travailleurs qui sont sous-exploités. Du coup, c'est un peu des situations assez précaires.
On a aussi fait la fast fashion parce que ça faisait écho à l'actualité et l'ouverture du magasin Shein en France.
Voilà, les présentations sont faites. Il est temps désormais de se pencher sur l'intérieur de nos dressings.
Et la première chose que l'on avait envie de demander aux élèves pour ouvrir la discussion, c'était de nous décrire leur rapport à la mode. Ça représente quoi dans leur vie, le fait d'acheter et de choisir des vêtements?
Pour moi, la mode, c'est vraiment s'intégrer socialement, etc. Pour moi, je prends plus de temps à m'habiller le matin parce que pour moi, c'est vraiment l'image que je vais avoir pendant la journée. Et vraiment, c'est l'image que j'ai tout court, quoi.
En fait, ça définit qui on est au final. Enfin, ça montre une partie de nous et la place qu'on a dans la société.
Mmh. M'habiller, c'est un peu vraiment tout moi. Enfin, je veux que les gens me considèrent, me voient comment je suis habillée et donc me disent « Ah ouais, la personnalité, elle colle bien avec comment je suis habillée. » Et donc, c'est vrai que acheter des vêtements, déjà même, ça fait plaisir.
Pour moi, la mode, c'est aussi une façon de s'exprimer. Donc, c'est soi, mais sans forcément parler. En fait, j'ai l'impression que si tu te sens bien dans les vêtements que tu portes, ça booste sa confiance en soi, alors que si tu portes des vêtements qui ne te représentent pas vraiment, bah, ça ne te met pas vraiment en confiance, tu ne te sens pas forcément ton élément.
On entend donc ici des mots importants, déjà. La mode, c'est ce qui va nous définir face aux autres. C'est dire quelque chose de nous, mais sans parler, c'est un enjeu de confiance en soi, mais aussi de plaisir quand on achète un vêtement. Chez d'autres, par contre, on regarde ça avec un œil plus critique ou sceptique.
Je suis d'accord pour dire que la manière dont je m'habille, c'est quelque part un reflet de qui je suis et ce que je pense. Mais en même temps, je pense pas qu'on devrait juger par rapport aux vêtements, dans le sens où que je m'habille d'une certaine manière, je sais pas, peut-être complètement punk ou très classique, finalement, la personne que je suis ne change pas. Pour moi, c'est plus d'où viennent mes vêtements. J'aime mes vêtements parce qu'ils viennent de vêtements de seconde main. Et c'est plus cette partie-là de moi que ça représente que vraiment qui je suis. C'est plus mes valeurs.
En même temps, montrer ses valeurs, c'est aussi montrer une part de qui on est, sans doute, oui.
À vrai dire, les gens, leur avis et tout, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est surtout le confort que moi, je préfère. Ça veut dire que, genre, imagine, on me donne un vêtement, je vais surtout penser à comment je vais être dedans, comment je vais me sentir dedans, que au fait que les gens ils vont dire « ouais, c'est bien, c'est pas bien », moi, je m'en fous de ça, à vrai dire. Du coup, en vrai, voilà, je pense surtout au confort et voilà, pour moi, c'est le plus important.
Pour moi, la mode, ça ne m'intéresse vraiment pas. Dans le sens que je vais très peu acheter de vêtements et je vais les garder très longtemps. Il y en a plusieurs que je garde depuis même un an, deux ans et des. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup à titre personnel, mais j'aime bien qu'on en parle parce que c'est intéressant et que j'ai du mal parfois même à comprendre l'idée de fast fashion parce que j'ai pas l'impression que ça me vise du tout.
Des regards multiples et variés donc dans la classe. Et face aux élèves, une invitée que nous avions conviée, elle s'appelle Coralie Meulhart, une spécialiste de l'économie de la mode, mais on va la laisser elle-même se présenter aux élèves.
Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je m'appelle Coralie Meulhart et j'ai fait mon doctorat sur la question fast fashion versus slow fashion. Et pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour les consommateurs de changer leur manière de s'habiller et donc de passer d'une pratique d'habillement à une autre. Et parmi tout ce que vous venez de dire, il y a quelque chose qui est très important et que je viens de dire aussi, c'est le terme de pratique. On ne s'intéresse pas à la psychologie d'un individu, mais bien à une pratique qu'on a finalement collectivement. Et il y a plein de choses dans ce que vous avez dit qui peuvent expliquer pourquoi c'est si difficile de changer sa pratique de consommation de vêtements.
Questionner les pratiques de consommation, on va y venir un peu plus tard. Mais avant tout, on va un peu essayer de comprendre ce qui se joue dans nos sociétés autour de la mode aujourd'hui. Et ce que Coralie Meulhart nous explique, c'est que la façon dont on s'habille, ce n'est pas quelque chose qui ne dépend que de nos choix. Non, ça dépend de pas mal de codes sociaux.
C'est tout ce qui est le fait qu'il y ait des dress codes. Vous n'allez pas aller, même si vous n'avez pas envie de montrer, d'exprimer quelque chose avec la mode ou que vous n'intéressez pas à la mode, vous n'allez pas aller à un mariage en jeans basket, sauf si c'est le dress code. Mais généralement, on va mieux s'habiller que ça. Donc, il y a déjà quelque chose de l'ordre de la société qui nous impose une manière de s'habiller. Ça a été dit, ça peut booster la confiance en soi. Dans des réunions de travail, le fait d'être bien habillé, eh bien finalement, on va être un peu moins stressé parce qu'on sait qu'on fait déjà une première bonne impression. Et puis, il y a le statut social. Avoir des vêtements d'une certaine marque, eh bien, ça donne l'impression qu'on a réussi dans la vie. Et tout ça, ce sont bien des construits socioculturels, ce sont des choses qu'on a construites et qui, collectivement, définissent notre pratique à tous liée à la mode. Et puis, il y a d'autres pratiques qui, elles, sont plus liées à un individu. Il y a d'autres verrouillages qui font qu'on ne change pas la manière dont on s'habille. Et c'est lié plutôt au contexte matériel, quand on a plus ou moins de financement. Si on a un meilleur salaire, un moins bon salaire, on ne sait pas s'acheter les mêmes types de vêtements. Il y a le contexte, est-ce qu'on habite proche, pas proche d'un centre commercial où acheter des vêtements? Est-ce qu'on a l'habitude de le faire en ligne ou pas? Et ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut beaucoup plus jouer en tant que personne, mais qui restent définies aussi de manière plutôt collective.
Donc si je comprends bien, la façon dont on va s'habiller, les choix qu'on va poser, c'est à la fois des prescrits un peu de notre vie en société, puis c'est des choix individuels, mais ces choix individuels peuvent être aussi un peu construits, influencés par des dynamiques qui sont dans la société, j'imagine.
Tout à fait, et donc c'est pour ça que souvent on va dire qu'on n'a pas tout à fait le choix de la manière de s'habiller, puisqu'il y a tellement de choses qui définissent, prédéfinissent la manière dont on choisit de s'habiller.
Alors, y a-t-il dans la classe des consommateurs et consommatrices de fast fashion? Après un peu d'hésitation, la parole se libère.
J'achète chez Zara, chez Bershka. De temps en temps, j'achète en deuxième main ou chez les petits riens, etc. Mais à chaque fois, je ne trouve pas mon style dedans. Donc, je vais souvent plus vers Zara, H&M, etc.
Oui, moi aussi, parce que déjà, c'est plus facile en tant qu'étudiant de se diriger vers la fast fashion, parce qu'on n'a pas souvent beaucoup les moyens. On arrive à un âge où c'est souvent nous qu'on va financer nos vêtements.
Dans les centres commerciaux, la plupart des magasins, c'est Zara, Bershka, H&M, et donc, vu que c'est des enseignes qui sont plus connues, on a plus tendance à aller là-bas parce que c'est des vêtements qui sont entre guillemets à la mode, et donc ça donne peut-être plus envie d'aller là-bas, et donc c'est vrai que des fois j'achète aussi là-bas.
Moi aussi, je suis un plutôt gros consommateur, mais c'est parce que c'est vraiment accessible et pas cher, quoi. Et aussi, c'est un peu ce que tout le monde porte, donc on s'identifie à nos groupes sociaux et voilà, quoi.
Et est-ce que certains et certaines achètent aussi parfois chez Shein, la marque d'ultra fast fashion chinoise, au cœur de plusieurs polémiques ces derniers temps chez nous en Europe?
Shein, non, mais t'es mieux. Au début, ils faisaient des offres gratuites à 0 euros. Du coup, en vrai, je me suis fait plaisir et j'ai pris quelque chose. Hein.
Dans votre Temu, oui, ça peut être Temu aussi, hein, pas obligé Shein.
Mais au tout début, quand ça s'est lancé, c'était hyper répandu sur les réseaux sociaux. Et donc, je pense que je me suis fait un peu influencer sur ça. Et c'est par après qu'on a vu un peu le moins bon côté. Enfin, voilà. Et après, on s'est rendu compte. Enfin, moi, ce que je me suis rendu compte, j'ai commandé, je pense, une seule fois. Et puis, voilà, c'est quand on ne connaissait pas encore tout ça. Quoi.
Mais moi aussi, c'était il y a quand même genre 5 ans. J'ai acheté sur Shein aussi. Et après, je me suis fait défoncer par ma maman. Mais les vêtements n'étaient même pas top, quoi. Enfin, c'était juste qu'ils étaient moins chers et c'était même pas si fifou que ça. Donc, j'étais un peu déçue.
On entre là dans le vif de notre sujet, la fast fashion et même donc l'ultra fast fashion. Essayons tout d'abord de bien définir ces différentes notions avec Coralie Meulhart.
Alors, on va définir la fast fashion en fonction de la fréquence de renouvellement des collections. Et on va même parler d'ultra fast fashion quand ces collections sont renouvelées presque tous les jours, comme c'est le cas sur certains sites qu'on a cités chez Shein. Par contre, chez Zara ou autres, on va tendance aussi à parler d'ultra fast fashion parce que c'est presque des renouvellements de toutes les semaines. Et puis la fast fashion, c'est plutôt un renouvellement de toutes les semaines, tous les mois. Et puis on va parler de slow fashion quand il y a une notion de durabilité plutôt étiquetée derrière, où on n'est plus sur une fréquence de renouvellement de collection, mais d'autres valeurs qui portent cette création de vêtements.
Donc si je reste sur la fast fashion et l'ultra fast fashion, il y a cette dimension de, il y a une rotation très importante, on a tout le temps des nouveaux produits, ce qui donne tout le temps des nouvelles envies d'acheter évidemment. Et puis il y a la dimension du prix, c'est des habits qui en général coûtent très peu cher.
Oui tout à fait, ce sont des vêtements qui coûtent peu cher pour que le consommateur puisse l'acheter aussi. Puisque l'idée, effectivement, c'est d'avoir un attrait pour la nouveauté, faire en sorte que le consommateur passe tous les jours sur ces sites internet pour voir ces nouveautés et les acheter. Et donc, si le prix est trop important, l'acheteur n'est plus en capacité de l'acheter tous les jours. Et donc, il y a un lien entre l'ultra fast fashion, ce renouvellement et ce prix des collections.
L'opposé, ce serait de se dire, on va acheter un beau vêtement cher, du coup, on va bien réfléchir à l'achat parce que ça va nous engager pour un an ou pour deux. C'est l'inverse de ça, en fait, la fast fashion et l'ultra fast fashion.
Oui, c'est ça. Et on peut y voir aussi le nombre de fois qu'on peut porter un vêtement. Avec un très bon jeans, un très bon vêtement, on peut le porter plusieurs centaines de fois. Donc, vous pourriez avoir 3-4 tenues sur une seule année, ce que presque personne n'a, justement dû à cet attrait de la nouveauté. Alors qu'un vêtement commandé dans l'ultra fast fashion, on sait qu'on va le mettre 4-5 fois, et puis en fait, ça ne va pas survivre au nettoyage, il va très vite se déformer, et de nouveau, la boucle est bouclée, il se déforme, on a envie de nouveauté, parce que ça ne nous va plus comme la première fois qu'on a mis ce vêtement-là, et on recommande.
C'est la mode du jetable, en quelque sorte, on pourrait le dire comme ça?
Oui, si on fait le lien avec les objets jetables, normalement, on doit pouvoir les utiliser plus de 10 fois pour que ce soit autorisé légalement. Et ici, les vêtements, on peut montrer qu'on ne sait presque même pas les mettre 10 ou 12 fois.
Donc on est même en dessous des normes du jetable, en quelque sorte.
Oui, tout à fait.
Pour suivre, on a réalisé un petit sondage auprès des élèves avec une question très concrète. Quel est le prix le moins cher auxquels ils et elles ont déjà acheté un t-shirt?
10, 15 euros.
Moi, je pense que c'était 6 euros.
Ah, moi, c'était 10 euros aussi.
Moi, c'était 5 euros. Souvent, à H&M, il y en a 5 euros.
Moi, je crois que c'était entre 5 et 7 euros, plus ou moins.
Du coup, la question, c'est qu'est-ce que ça vous dit quand vous voyez passer des vêtements à ces prix-là? Est-ce qu'il y a une réflexion derrière votre tête sur... Tiens, comment est-ce qu'on peut faire pour produire des vêtements aussi peu chers?
On se doute que c'est dû aux problèmes sociaux. Par exemple, les gens qui vont produire des t-shirts aussi peu chers, sur par exemple 29 euros le t-shirt, ils ne vont même pas avoir 20 centimes. Les gens sont mal payés et en plus, la sécurité sociale, elle n'est pas présente.
Okay. Et on a un peu conscience de ça quand on voit passer des t-shirts pas chers ou qu'on achète même un t-shirt pas cher, on a ça dans un petit coin de sa tête ou bien c'est un peu de connaissances qu'on va séparer comme ça?
Ben, on en entend beaucoup plus parler maintenant, je trouve, que sur ces sites-là, il faut beaucoup moins acheter. Donc moi, je dirais que oui, on sait faire la différence, quand même, du fait que c'est pas bien d'acheter là-dessus. Parce que maintenant, on est beaucoup plus sensibilisé à ça. Et ça, je trouve ça chouette quand même.
Qui d'autre a des explications sur comment on peut avoir des prix aussi bon marché ?
En plus des problèmes sociaux, il y a aussi les matériaux qui sont de moins bonne qualité, justement. Puisque moins bonne qualité, c'est moins cher. Et du coup, si le coût de production est moins cher, forcément, nous, on va devoir l'acheter moins cher aussi.
Corey Meulhart, j'ai envie de revenir vers vous et qu'on explique un petit peu tout ça. Comment on explique qu'on puisse avoir des renouvellements aussi réguliers de collections avec des prix aussi bon marché ? Tout ça, ça se fait, entre guillemets, à quel prix aujourd'hui ?
Alors, il n'y a pas de miracle et ça a été plus ou moins dit. Il y a effectivement un lien avec le coût des matières premières. Un vêtement qui a été fait en coton durable, produit localement, donc en Belgique ou en France, par exemple, ou même au Portugal, va coûter beaucoup plus cher, revenir beaucoup plus cher qu'un t-shirt ou un vêtement qui est fait en matière synthétique et en pétrole et qui pollue aussi beaucoup plus. Et puis la deuxième chose, effectivement, c'est au niveau de la production. On a parlé des conditions de travail. Si la personne qui coud le vêtement est rémunérée beaucoup moins bien qu'en Belgique, où on a des normes sociales qui sont quand même beaucoup plus sécurisées, eh bien effectivement, ça va coûter moins cher. Et la troisième chose, c'est qu'on pourrait penser qu'un produit qui vient de l'autre bout du monde voyage beaucoup, coûte plus cher, et pourtant, le voyage ne coûte pas si cher que ça. Le coût de distribution a un coût environnemental, mais pas un coût sur le portefeuille du consommateur.
Et là, vous avez pointé un élément très important. C'est justement ce coût environnemental. Au-delà du fait qu'on va se retrouver avec des prix très réduits et qu'il y a des conditions de travail qui sont parfois très difficiles par rapport à ce qu'on pourrait connaître chez nous en Belgique, il y a aussi un coût pour la planète, pour l'environnement, qui lui, par contre, peut être inversement proportionnel au coût financier, au prix de ces produits.
Tout à fait, c'est plutôt le cas. Un vêtement qui a été éco-conçu, donc ça veut dire qu'il y a une réflexion derrière les matières qu'on va utiliser, la manière dont on va le construire pour pouvoir le réparer le plus possible pour qu'il soit porté un nombre de fois le plus grand possible, va finalement coûter un peu plus cher au consommateur, mais il va le porter beaucoup plus de fois. Et donc finalement, le prix par nombre de fois que ce vêtement est porté par le consommateur est beaucoup plus faible, puisqu'on a parlé d'un t-shirt à 10 euros qui est porté 10 fois, c'est 1 euro pour le porter, alors qu'un vêtement qu'on peut porter des centaines de fois, on ne va pas le payer plusieurs centaines d'euros. Patagonia garantit à vie les vêtements, donc ça veut dire que vous pouvez le faire réparer autant de fois qu'on veut. Et donc ça ne coûte pas si cher au consommateur et ça coûte aussi beaucoup moins cher à la planète puisqu'on va réparer beaucoup plus. Il y a une suite finalement à la vie de ce produit. Au lieu d'avoir une vie d'extraction, donc de matières premières, de production, de consommation et puis de jeter, eh bien la vie environnementale de ce produit-là, on ne va pas le jeter, on peut le recycler, on peut le réemployer, on peut lui donner une seconde vie en le revendant. Finalement, sa vie va être beaucoup plus longue et donc son coût environnemental va être réduit.
Il y a un élément que l'on n'a pas encore abordé jusqu'ici, c'est le rôle joué par les réseaux sociaux dans le marketing désormais permanent des marques de prêt-à-porter. Les élèves le confirment, la pub explicite ou beaucoup moins explicite pour des vêtements, ils y sont sans arrêt confrontés.
On en voit beaucoup passer parce que les influenceurs vont avoir des demandes des sites comme Shein pour faire des collaborations pour qu'il y ait plus d'acheteurs. Et ça fonctionne très bien parce que je suppose que grâce à ça, si Shein etc. demande autant aux influenceurs, c'est que ça fonctionne bien derrière. Et donc ça fait aussi que ça influence beaucoup de jeunes à acheter là-dessus.
Ils mettent la belle partie en avant et passe les défauts qu'il y a derrière. Ils sont là pour embellir un objet qui ne devrait peut-être pas l'être.
C'est vrai qu'on voit rarement des influenceurs aller dans les usines où on voit les gens travailler dans des très mauvaises conditions ou nous montrer pourquoi c'est fichu au bout de trois utilisations. Ça, on va le voir moins passer, quoi.
Effectivement, et puis même les jeunes, c'est pas ça qui vont les intéresser. Ils vont vouloir quelque chose de beau qui rende bien pour justement avoir cette apparence de neuf, de chouette, entre guillemets.
Ben en vrai, il y a deux types de personnes sur les réseaux, soit ceux qui nous donnent des codes promo, etc., qui sont en mode pour la fast fashion, où ils disent en vrai, il n'y a que du bénéf, etc. Et il y a une autre team où là, c'est plus, ils nous font plus voir les vrais côtés, où ils nous disent les problèmes dans les usines, etc.,
Je me souviens même avoir vu une vidéo où c'était un monsieur qui voulait rentrer dans une usine de Shane. Il n'avait pas le droit parce que apparemment c'était trop, c'était des trash à voir quoi.
C'est intéressant. Il y a moyen de trouver quand même aussi ces infos là sur les réseaux sociaux.
Ils montrent un beau côté des choses parce qu'ils sont là surtout pour se faire de l'argent. Tu vois. Ça veut dire qu'au final, l'argent prime sur la vérité et c'est juste logique parce que. Tu ne crées pas une société pour ne pas faire de l'argent, tu crées une société pour en faire. Ils sont là pour faire du bénéfice et voilà.
C'est la logique de notre système.
C'est ça, parce qu'au final, on est dans un système capitaliste et du coup, ça pousse les gens à mentir sur leurs produits et voilà. Mais ce n'est pas honnête, mais je comprends un peu.
Sur cet aspect-là, Coralie Meulhart confirme l'influence forte des réseaux sociaux. De voir des milliers d'influenceurs, parfois très suivis, parfois beaucoup moins, mettre en avant au quotidien certains produits de fast fashion. On sait que certaines marques comme Shein, par exemple, vont offrir beaucoup de vêtements à des influenceurs sans les rémunérer en plus de ce cadeau et ainsi s'offrir de vastes campagnes de pub pour pas très cher, finalement. Et cette multiplication de contenus, visible sur la toile en scrollant, va fortement peser sur nos choix de consommation.
La manière dont on pratique sa consommation de vêtements dépend aussi de ce qu'on connaît et de ce qu'on ne connaît pas, et donc de ce qu'on a vu ou de ce qu'on n'a pas vu sur les réseaux sociaux. Et au plus vous allez voir une publicité, au plus vous allez être incité à essayer aussi, puisque vous vous dites, si tout le monde participe à ça, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que c'est si mal finalement? Parce que voir une vidéo qui déconstruit un peu le modèle, ça peut faire prendre conscience, mais il y a tellement d'autres choses qui régissent la manière dont on consomme les vêtements que parfois, le cerveau choisit de le mettre sur le côté pour participer à la consommation de vêtements et l'attrait de cette nouveauté que proposent ces groupes-là.
Jusqu'ici, on a surtout entendu ceux qui, dans la classe, vont de temps en temps ou plus régulièrement vers la fast fashion. Ceci dit, dans la classe, une partie des élèves avait aussi des habitudes très différentes de consommation. Et bien entendu, on a pris le temps de les écouter également.
Alors, personnellement, je ne suis absolument pas intéressé par tout ce qui est fast fashion parce que juste, je ne comprends pas l'intérêt, je ne comprends pas l'idée qu'on passe autant de temps à choisir la façon dont on ne va pas montrer notre corps nu. Ça me paraît être délirant en termes de proportions que ça prend. Mais je suis une minorité là-dessus.
Moi, j'évite la fast fashion parce que j'apporte pas tellement d'importance que ça à la mode. J'aime bien m'habiller, mais acheter des vêtements, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Du coup, vu que j'en achète très peu et très rarement, je peux me permettre de me tourner vers des marques un peu plus chères, mais qui n'ont pas de la fast fashion, quoi.
Mais moi, j'ai toujours appris, depuis que je suis toute petite, à récupérer des vêtements de proches, d'aller en brocante, par exemple, aller en friperie. Et souvent, on trouvait des vêtements, certes usagés, mais à plus bas prix, et ce qui me convenait tout à fait.
Moi, j'avoue que je ne viens pas d'une famille où financièrement on est aisé. Et donc, j'ai souvent récupéré les vêtements de ma sœur, de mes cousines, ou même les anciens de ma mère. Puis, quand j'ai dû commencer moi-même à acheter des vêtements, c'est vrai que du coup, j'ai eu le réflexe d'aller en friperie.
Personnellement, j'achète principalement de la seconde main sur des applications comme Vinted, des choses comme ça. En fait, j'aime personnellement le vintage, donc c'est des trucs que je sais que ça a été normalement bien conçu, ou que ça date franchement des années 70 parfois. Et personnellement, j'aime bien, c'est coloré, c'est haute, il y a plein de trucs différents. C'est plus économique et j'ai de la bonne conscience après.
Mais par contre, tu y passes du temps. Enfin, je veux dire, tu trouves que c'est quand même important de passer ce temps-là, de faire des choix. C'est aussi, justement, j'imagine, pas toujours très cher. Et donc, du coup, tu peux prendre peut-être plus de pièces. T'es dans la seconde main, mais il y a quand même cette vraie recherche de te définir par la façon dont tu vas t'habiller par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui, totalement. Je paye jamais plus de 10 euros pour un article. Alors que je sais que c'est bien conçu, mais il y a juste quand même les frais de port à payer. Et je sais que c'est pas forcément bien. Parfois, c'est bien d'Espagne. Mais j'essaye de favoriser la Belgique, la France, même les Pays-Bas.
Alors, ces stratégies un peu alternatives à la fast fashion, suggérées par les élèves, on les a commentées avec notre spécialiste Coralie Meulhart, et voici ce qu'elle en retenait.
Alors la première chose, c'est par rapport à tous ceux qui sont plutôt sobres, c'est génial. Le seul problème, c'est que ça ne représente même pas 10% de la population. Et toute la question, c'est comment faire collectivement cette transition vers la slow fashion. Et dans cette slow fashion, il y a plusieurs choses qui ont été énoncées ici. Il y a le fait d'acheter en seconde main, le fait d'acheter neuf et de manière durable. Et on n'a même pas cité, mais il existe aussi des vétithèques, donc des bibliothèques de vêtements, où au lieu d'aller acheter un vêtement, on va louer le vêtement pour une certaine période de temps. On pense généralement au costume, mais en fait, on peut le faire avec l'entièreté d'une garde-robe. Alors, par rapport au cycle de vie du vêtement, donc la fin, après, une fois qu'on a consommé, qu'est-ce qu'on fait avec ces vêtements, c'est trois solutions, on va avoir des impacts environnementaux qui sont différents. Le fait d'utiliser la seconde main, ça réintroduit une seconde vie au vêtement, donc on va l'utiliser plus longtemps, et donc on est de nouveau sur une fréquence d'utilisation du vêtement qui est allongée, et donc c'est plutôt pas mal au niveau durabilité. On a cité Vinted en termes de seconde main. Le problème de Vinted, c'est, ça a été dit aussi, c'est le problème de ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Et en fait, on se rend compte que les apports du fait qu'on donne une seconde vie aux vêtements via Vinted sont totalement réduits, voire on a encore plus d'impacts environnementaux à cause de la logistique liée à l'envoi des colis et souvent au fait qu'on va chercher en voiture ce vêtement. Et donc, en fait, sur la durée de vie du vêtement, le fait d'avoir une seconde vie, eh bien, a un plus grand impact environnemental parce qu'il y a cette logistique qui pollue et le fait d'aller chercher ce vêtement en point relais en voiture qui pollue. Mais il existe aussi une autre alternative, c'est larécup.be, que je pense que vous ne connaissez pas, qui a été lancé en septembre par la fédération Ressources, et qui en fait, c'est tout ce qui est Leptirien, Oxfam, etc., qui se sont mis ensemble et qui ont créé ce site internet-là. Et ça permet de financer l'économie circulaire. Alors, de nouveau, il pourrait y avoir un problème de logistique aussi. Maintenant, à mettre dans la balance, c'est le fait que Vinted permet de donner une rentabilité capitaliste donc à des actionnaires, alors que larécup.be permet de financer des projets en économie sociale. Et donc là, on est plus vertueux au niveau socio-environnemental. La dernière chose, donc, c'est les vétithèques, les bibliothèques de vêtements, où là, en fait, il faut de nouveau faire attention à la durabilité au niveau de la logistique. Si on est quelqu'un qui aime avoir tout le temps des nouveautés et qu'on va tout le temps à cette bibliothèque de vêtements et qu'on fait des grands trajets en voiture pour y aller, environnementalement parlant, il n'y aura peut-être pas de grand intérêt par rapport au cycle de vie du vêtement. Et parfois, donc, il vaudrait mieux acheter quelques pièces, en avoir très peu dans sa garde-robe, les réparer, effectivement, et les utiliser le plus longtemps possible pour que ces vêtements soient rentabilisés sur leur durée de vie.
On entend, en tout cas, qu'il ne s'agit pas seulement de changer un modèle individuel de consommation, mais de questionner carrément tout un système. Ceci dit, tous les élèves étaient unanimes pour constater que le fait de s'être penché sur le sujet dans l'émission, mais aussi dans le cadre de tout un travail mené en classe sur le revers de la fast fashion, avait clairement changé leur regard sur le sujet.
Mais moi, ça m'a vraiment fait réagir, surtout ma consommation. Je sais que là, maintenant, j'achèterai, enfin, en tout cas, je garderai le plus longtemps possible mes vêtements. Puis voilà, j'essaie aussi de les passer à ma petite sœur.
Moi, je crois que ça m'a un peu servi de piqûre de rappel, dans le sens où ça faisait un petit temps que je me disais, en vrai, tout le temps aller en fripe, me déplacer, enfin, prendre le bus de Louvain-la-Neuve à Bruxelles pour aller où il y en a beaucoup, devoir chercher, prendre mon temps. Je pense que revoir un petit peu cette thématique, ça m'a permis de me rappeler pourquoi je faisais ça en premier lieu, quoi.
Moi, je trouve ça très important de parler de ça en classe. On a vu un peu tous les mal, entre guillemets, que ce soit sociaux, économiques et environnementaux. Et à côté de ça, on a aussi vu les solutions qu'on pouvait trouver. Et donc ça, je trouvais ça chouette. Comme ça, au moins, ça nous mettait les deux parties.
Ok, qui veut encore ? Ouais.
C'est vrai que moi, avant, en fait, je ne pensais pas du tout aux conséquences quand j'achetais quelque chose. Et donc, je pense que vraiment, ce qu'on voit ça, enfin, qu'on le voit en classe et que tout le monde le voit, du coup, c'est vraiment important et ça sensibilise tout le monde, quoi.
Personnellement, ce qui m'a surtout fait halluciner, c'est vraiment la quantité d'argent, de pollution, etc., qui sont mises dans les vêtements. Je savais que c'était un scandale, mais pas au point d'en faire la deuxième industrie la plus polluante.
Moi, je me souviens, ce qui m'a choqué le plus, c'est l'impact social, surtout au niveau des travailleurs, etc. Je ne savais pas que c'était aussi grave, quoi. Enfin, je savais que c'était grave, mais pas à ce point-là, qu'il y ait des personnes qui meurent, etc., quoi.
Et puis aussi pour beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant dans la classe, il y a énormément de choses qui nous ont vraiment choquées dans ce qu'on a vu en classe. Donc après, je pense que logiquement, on serait beaucoup plus sensibilisés après avoir entendu tout ça que juste acheter un vêtement sans savoir.
On ne pourra donc plus acheter un vêtement sans savoir, disaient donc ses élèves de l'Athénée Paul Delvaux à Ottigny-Louvain-la-Neuve. Merci à eux pour la richesse des échanges. Merci aussi à leurs enseignants, bien sûr. Merci à Valentine Gourdange pour la réalisation sonore de cet épisode. À la préparation, il y avait Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à le partager autour de vous. Vous pouvez également aller rechercher toutes nos spéciales jeunes depuis le début des clés. Elles sont toutes bien sûr sur RTBF Ovio.